Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. UDM, Nouvelles et La Presse. Au programme, une exoplanète brûlante observée de près par des astronautes de l'Université de Montréal. Départ à la retraite, après 58 ans de service, la police, c'était sa vie. Et un regard rétrospectif et introspectif sur Mira. Bonne écoute.
Une exoplanète brûlante observée de près par des astronomes de l'Université de Montréal. Un texte de la salle de presse paru le 14 juin 2023 dans UDM Nouvelles. Des astronomes de l'UDM ont étudié avec précision la composition chimique d'une exoplanète géante ultra-chaude permettant de mieux comprendre ce type de planète singulière. Une équipe internationale dirigée par Stéphane Pelletier, doctorant à l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes IREX de l'Université de Montréal, annonce aujourd'hui la publication dans la revue Nature d'une étude détaillée sur l'exoplanète géante ultra-chaude WASP-76b. Grâce à l'instrument Maroon X installé sur le télescope Gemini Nord, l'équipe a pu identifier 11 éléments chimiques dans l'atmosphère de la planète et en mesurer l'abondance. Parmi ces éléments figurent des composants de roches dont on n'a pas encore mesuré l'abondance pour les planètes géantes du système solaire comme Jupiter ou Saturne. Il est extrêmement rare qu'une exoplanète située à des centaines d'années-lumière nous apprenne quelque chose qui aurait été autrement impossible à savoir à propos de notre propre système solaire, a déclaré Stéphane Pelletier. C'est le cas de cette étude. Un autre regard sur une planète singulière. WASP-76b est un monde étrange. Elle atteint des températures extrêmes en raison de sa proximité avec son étoile hôte, une étoile massive située à 634 années-lumière dans la constellation des Poissons, environ 12 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil, avec une masse similaire à celle de Jupiter, mais près de 6 fois plus importante en volume. WASP-76b est très peu dense. Depuis sa découverte en 2013 par le programme Wide Angle Search for Planets, WASP, de nombreuses équipes l'ont étudié et ont décelé différents éléments dans son atmosphère. En particulier, dans une étude également publiée dans la revue Nature en mars 2020, une équipe a trouvé la signature du fer sur la planète et a émis l'hypothèse que des pluies de fer pourraient y avoir cours. Stéphane Pelletier, au fait de ses études, a voulu obtenir de nouvelles observations indépendantes au sujet de WASP-76b en utilisant le spectrographe optique à haute résolution Maroon-X installé sur le télescope de 8 mètres de Gemini Nord. Ce télescope fait partie de l'Observatoire international Gemini, situé à Hawaï et exploité par le Noir Lab, National Optical Infrared Astronomy Research Laboratory de la Fondation nationale des sciences, NFS. Nous savions que le nouveau et puissant spectrographe Maroon-X nous permettrait d'étudier la composition chimique de WASP-76b avec un degré de précision inégalé pour une planète géante, explique le professeur Bjorn Benecke, co-auteur de l'étude et directeur de recherche de Stéphane Pelletier à l'Université de Montréal. Une composition similaire à celle du Soleil. Nous connaissons avec une grande précision les abondances de presque tous les éléments du tableau périodique présents à l'intérieur du Soleil. Cependant, cela n'est vrai que pour une petite quantité d'éléments présents dans les planètes géantes de notre système solaire, dont la composition reste mal définie. Cette lacune entrave notre capacité à comprendre les mécanismes précis qui régissent la formation de ces planètes. En raison de la proximité de WASP-76b avec son étoile, sa température dépasse largement les 2000 degrés centigrades. À cette température, de nombreux éléments qui formeraient normalement des roches sur la Terre, comme le magnésium et le fer, sont vaporisés et présents sous forme gazeuse dans la haute atmosphère de la planète. Son étude permet donc d'obtenir des données inédites sur la présence et l'abondance d'éléments qui entrent dans la composition des roches des planètes géantes. En effet, dans les planètes géantes plus froides comme Jupiter, ces éléments se trouvent en plus basse altitude dans leur atmosphère et sont donc impossibles à détecter avec les outils technologiques actuels, aussi performants soient-ils. Le produit direct du Big Bang. Les abondances de nombreux éléments mesurés par Stéphane Pelletier et son équipe dans l'atmosphère de l'exoplanète, comme le manganèse, le chrome, le magnésium, le vanadium, le baryum et le calcium, correspondent de très près à celles de son étoile hôte ainsi qu'à celles de notre propre Soleil. Ces abondances ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le produit direct du Big Bang, suivi de milliards d'années de nucléosynthèse stellaire, de sorte que les scientifiques mesurent à peu près la même composition dans toutes les étoiles. Celles-ci diffèrent toutefois de la composition des planètes rocheuses comme la Terre, dont la formation est plus complexe. Les résultats de cette nouvelle étude indiquent que les planètes géantes pourraient conserver une composition globale reflétant celle du disque protoplanétaire à partir duquel elles se sont formées. Cependant, d'autres éléments se trouvent appauvris dans la planète par rapport à l'étoile, un résultat que Stéphane Pelletier a trouvé particulièrement intéressant. Les éléments qui semblent manquants dans l'atmosphère de WASP-76b sont précisément ceux qui nécessitent des températures plus élevées pour se vaporiser, comme le titane et l'aluminium, explique-t-il. En revanche, ceux qui correspondaient à nos prévisions, comme le manganèse, le vanadium ou le calcium, se vaporisent tous à des températures légèrement inférieures. L'interprétation de l'équipe de scientifiques est que la composition observée dans les couches élevées de l'atmosphère des planètes géantes peut être extrêmement sensible à la température. Selon la température de condensation d'un élément, celui-ci sera présent sous forme gazeuse dans la partie supérieure de l'atmosphère ou condensé sous forme liquide dans les couches inférieures plus profondes. Lorsqu'il est sous forme gazeuse, l'élément joue un rôle important dans l'absorption de la lumière et peut être observé par les astronomes. Lorsqu'il est condensé, il ne peut pas être détecté par les astronomes et disparaît donc complètement de leurs observations. Vous écoutez une exoplanète brûlante observée de près par des astronomes de l'Université de Montréal, un texte de la salle de presse paru le 14 juin 2023 dans UDM Nouvelles. Si cette découverte est confirmée, cela signifierait que deux exoplanètes géantes ayant des températures légèrement différentes l'une de l'autre pourraient présenter des atmosphères très différentes, explique Stéphane Pelletier. Un peu comme deux récipients d'eau, l'un à moins 1 degré centigrade où l'eau est gelée et l'autre à plus 1 degré centigrade où l'eau est liquide. Par exemple, le calcium est observé sur WASP-76b, mais il ne le sera peut-être pas sur une planète légèrement plus froide. Première détection d'oxyde de vanadium sur une exoplanète. L'équipe de Stéphane Pelletier a obtenu un autre résultat intéressant, à savoir la détection de l'oxyde de vanadium. c'est la première fois que cette molécule est détectée avec certitude sur une exoplanète. Cette molécule suscite l'intérêt des astronomes, car ils savent qu'elle peut avoir un fort impact sur les planètes géantes chaudes. Cette molécule joue un rôle similaire à celui de l'ozone dans l'atmosphère terrestre. Elle est extrêmement efficace pour réchauffer la haute atmosphère, explique Stéphane Pelletier. Les températures augmentent donc en fonction de l'altitude, au lieu de diminuer, comme c'est généralement le cas sur les planètes plus froides. Autre découverte. Un élément, le nickel, est nettement plus abondant dans l'atmosphère de l'exoplanète que les astronomes ne l'avaient prévu. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce fait. L'une d'entre elles est que WASP-76b pourrait avoir accrété de la matière provenant d'une planète similaire à Mercure. Cette petite planète rocheuse de notre système solaire est enrichie en métaux comme le nickel en raison de la manière dont elle s'est formée. L'équipe a également constaté que l'asymétrie de l'absorption du fer entre les hémisphères est et ouest de WASP-76b, signalée dans des études antérieures, est également présente pour de nombreux autres éléments. Cela signifie que le phénomène sous-jacent à l'origine de cette asymétrie est probablement un processus global tel qu'une différence de température ou la présence de nuages d'un côté de la planète et non de l'autre, plutôt que le résultat d'une condensation sous forme liquide, comme cela avait été auparavant suggéré. Prochaines étapes. À la suite de ces résultats passionnants, Stéphane Pelletier et son équipe souhaitent en apprendre davantage sur cette exoplanète et sur d'autres planètes géantes ultra-chaudes, notamment pour valider leur hypothèse concernant les atmosphères très différentes qui pourraient prévaloir sur des planètes dont la température diffère légèrement. Ils espèrent également que d'autres chercheurs tireront parti de ce qu'ils ont appris sur cette exoplanète géante et l'appliqueront pour améliorer notre compréhension des planètes qui composent notre propre système solaire et de leur origine. Des générations de chercheurs ont utilisé des abondances d'hydrogène et d'hélium mesurées sur Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune pour comparer les théories de formation des planètes gazeuses, résume le professeur Bjørn Benneke. De la même façon, les mesures d'éléments plus lourds comme le calcium ou le magnésium sur WASP-76b permettront de mieux comprendre la formation des planètes gazeuses. À propos de cette étude, l'étude Vanadium Oxide and a Sharp Onset of Cold Trapping on a Giant Exoplanet, réalisée par Stéphane Pelletier et ses collaborateurs, a été publiée le 14 juin 2023 dans la revue Nature. Outre Stéphane Pelletier et Bjørn Benneke, l'équipe comprend Luc Bazinet et Olivia Lim, deux étudiants au cycle supérieur de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal, IREX, Mohamed Alidib, ancien boursier de recherche postdoctoral Trottier à l'IREX, aujourd'hui à la New York University, Abu Dhabi, ainsi que 13 autres co-auteurs du Canada, des Émirats arabes unis, de Suède, de France, du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Italie, des Pays-Bas et d'Allemagne. C'était une exoplanète brûlante observée de près par des astronomes de l'Université de Montréal, un texte de la salle de presse paru le 14 juin 2023 dans UDM Nouvelles.
Départ à la retraite après 58 ans de service. La police, c'était sa vie. Un texte de Lila Dussault, paru le 1er juin 2023 dans La Presse. Le sergent Lionel Bourdon attrape la radio de sa voiture de patrouille comme il l'a fait des milliers de fois. Il hésite quelques secondes. Regarde la foule rassemblée autour de lui, puis échange quelques mots avec l'agente au bout de la ligne. « 10-19 », finit-il par dire. Le code pour annoncer qu'il a terminé son quart de travail. Son tout dernier, après 58 ans de service. Juste comme ça, le plus ancien policier en service au Canada a terminé sa carrière jeudi après-midi sous un tonnerre d'applaudissements. « Ça fait drôle », a-t-il confié après coup. « Police montée, aide d'honneur, gyrophare, défilé et cornemuse, le service de police de l'agglomération de Longueuil, SPAL, a souligné en grand le départ à la retraite de M. Bourdon. À presque 79 ans, Lionel Bourdon fêtera son anniversaire à la fin juin, le policier a traversé les époques. Jeudi, il a porté pour la dernière fois son uniforme au quartier général du SPAL sur le boulevard Curé-Poirier-Ouest. Le plus ancien policier en service au Canada a terminé sa carrière jeudi après-midi sous un tonnerre d'applaudissements. Un uniforme bien différent de celui qu'il a enfilé en 1965 à 20 ans. C'était une fierté de mettre l'uniforme la première journée quand on a toujours voulu être policier, se souvient-il. Du plus loin qu'il se remémore, la police a fait partie de sa vie et de ses rêves. Quand j'étais jeune, on demeurait en face du poste de police, donc on les connaissait tous, raconte-t-il. Le monde policier l'a ensuite accompagné pendant presque 60 ans. Lui, mais aussi sa famille, présente pour l'occasion jeudi. La police, c'était sa vie, résume sa conjointe, Francine Bonin-Bourdon. Nous, on a accepté ça. On l'a appuyé. La police fait aussi partie de notre vie, souligne sa fille Annie Bourdon. C'est important autant pour nous que pour lui. Ça va faire un vide. Une mémoire vivante. Lionel Bourdon ne s'attendait pas à de tels honneurs pour célébrer son départ. Il y avait notamment sur place des agents du service de police de la ville de Montréal, SPVM, de la Sûreté du Québec et même de la Gendarmerie royale du Canada. « Je n'en reviens tout simplement pas », s'étonne-t-il. En 2020, Lionel Bourdon avait reçu une médaille de l'Assemblée nationale pour ses 55 ans de service. Déjà considéré comme le plus ancien policier en service du pays, il a été témoin de l'évolution du métier. Difficile d'imaginer qu'à ses débuts, il faisait le tour des commerces de son secteur pour s'assurer que leurs portes étaient bien verrouillées la nuit. Il gagnait alors 72 $ par semaine. Depuis, tout a changé, estime-t-il. Les techniques d'enquête, notamment l'utilisation de l'ADN, sont apparues. Les armes à feu ont évolué. Les femmes ont intégré la police. Un changement surprenant, mais ça s'est très bien passé, se souvient M. Bourdon. C'est parce qu'il a pu s'ajuster au changement qu'il a pu rester aussi longtemps au sein du corps policier, estime sa conjointe. Une vie mouvementée. Lionel Bourdon a travaillé comme patrouilleur, puis comme détective aux enquêtes criminelles. Il a ensuite été nommé sergent à la gendarmerie. L'enquête qui l'a le plus marqué concerne l'enlèvement du gérant de Wells Fargo et de sa famille dans les années 1970. Il s'agissait de la plus importante affaire d'extorsion au Canada, à l'époque, selon un article publié dans Le Reflet. M. Bourdon avait alors travaillé de concert avec des agents de la Sûreté du Québec pour résoudre la crise. Depuis 2008, le sergent était responsable de l'équipe de la sécurité routière. Il devait encore faire les tests d'aptitude sur une base régulière, comme le tir ou la conduite. Des tests qu'il passait haut la main, note Ghislain Vallière, relationniste pour le SPAL. Sa passion, Son dévouement et son professionnalisme ont été une source d'inspiration pour ses collègues tout au long de sa carrière, a souligné par communiqué la ville de Longueuil. Maintenant que M. Bourdon a accroché son uniforme, son fils, Dominique, espère qu'il pourra profiter de la vie et de sa famille. Sa femme, elle, se réjouit du fait que le couple va pouvoir prendre du temps pour lui et voyager. Mais pour l'ex-sergent, la police ne sera jamais loin. Son plan de retraite? Participer à la création d'un musée de la police de Longueuil. Parce que, selon lui, c'est le plus beau métier du monde. C'était « Départ à la retraite après 58 ans de service. La police, c'était sa vie. » Un texte de Lila Dussault, paru le 1er juin 2023 dans La Presse.
Un regard rétrospectif et introspectif sur Mira. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 22 mai 2023 dans La Presse. On lit avec curiosité « Mira, ma plus belle histoire d'amour » avec ses 270 pages bien tassées tout en songeant « Que de chemin parcouru ». On y découvre surtout que les prémices du destin de cet organisme, fort respecté par les Québécois, sont inextricables de celles de la vie de son cofondateur. Écrit en collaboration avec Agnès Marliot, ses mémoires retracent certes le développement du projet, de plus en plus touffu au fil du temps, mais aussi les tout premiers pas d'Éric Saint-Pierre dans ses relations avec les chiens, parfois surprenantes. Élevé à la dure, au sein de la ferme familiale, il a eu la bienheureuse compagnie de Mike ou de Tilou, fidèle canidé complice de ses péripéties d'enfance et de tant d'autres, comme Coco ou le très bien nommé Karma, un berger allemand. Sa carrière de musicien sur la touche, M. Saint-Pierre décide de composer avec ses chiens, s'initiant à l'entraînement. Il forme dès lors des animaux particulièrement obéissants, mais dont la vocation est encore éloignée de celle des futurs rejetons de Mira, étant dressés pour la garde, la sécurité ou la recherche de stupéfiants. Parallèlement, le besoin de nourrir sa famille le pousse à accepter un sale boulot. Dog catcher au service des fourrières municipales, ce qui lui vaudra le mépris des bonnes gens, diverses morsures et une odeur pestilentielle tenace. Il parvient toutefois à tirer les rênes vers le projet de sa vie. C'est l'étincelle de l'injustice qui a mis le feu aux poudres quand il a constaté que les chiens guides pour personnes malvoyantes provenaient tous du monde anglophone. Pour Éric Saint-Pierre, c'était inacceptable. Ces Québécois n'avaient-ils pas le droit de voir en français? Mira voit le jour en 1981, fondée par Éric Saint-Pierre et Joanne Allais. J'ai eu peur que cela ne se fasse jamais. La grande bataille du français en Amérique du Nord n'est pas encore finie aujourd'hui, dit-il en entrevue avec La Presse. Il s'est toutefois lancé à corps perdu dans le combat. Les poches vides, mais le cœur plein. Je m'engageais sans garde-fou sur un chemin aussi tortueux que mou, déclare-t-il dans sa biographie. Le projet pilote destiné aux personnes souffrant d'Alzheimer, lancé en 2019 et en développement après la parenthèse pandémique, est très prometteur. S'engage alors une lutte pour financer et faire croître Mira, l'auteur de cette initiative essuyant de nombreux revers, se faisant claquer des portes au nez, mais déterrant aussi du soutien logistique et pécuniaire. À lire ce cheminement tumultueux, au virage d'espoir et de désillusion, on s'interroge sur ce qui a permis à l'homme de conserver le feu sacré. C'est le plaisir de travailler avec les chiens, mon amour pour eux depuis l'âge de 6 ans, quand je travaillais avec mon père, raconte M. Saint-Pierre. Même si parfois j'ai été sur le bord de lâcher face aux difficultés, concède-t-il. L'organisme grandit, conquérant le cœur du public, enchaînant campagnes et activités de financement, déployant toujours plus d'envergure, comme des expéditions en traîneau à chien. On découvre également comment l'aide au public ciblé s'est épanouie et diversifiée, s'orientant vers les personnes à mobilité ou motricité réduite ou encore vers les enfants atteints d'autisme. Une ramification qui ne cesse de croître aujourd'hui encore, comme le montre le projet pilote destiné aux personnes souffrant d'Alzheimer, lancé en 2019 et en développement après la parenthèse pandémique. C'était un projet très prometteur, surtout avec les personnes en début de maladie, précise Agnès Marliot, collaboratrice de la biographie. Mira, qui compte 90 employés et plusieurs centaines de bénévoles à ce jour, forme entre 150 et 200 chiens par année. Je vois pour Mira un bel avenir de perfectionnement, pour toujours donner plus. Développer le volet pour les personnes atteintes d'Alzheimer, il faut encore travailler, s'organiser et peaufiner pour que cela fonctionne mieux, dit M. Saint-Pierre. C'était un regard rétrospectif et introspectif sur Mira, un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 22 mai 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Claire Dorion et Gilbert Lepage. À la lecture, Diane Métaillé et Francine Thériault. À la recherche, Nicolas Wartmann. À la présentation et au montage.